Bonjour, est-ce que c'est un terrible risque que court l'humanité? Est-ce que c'est une fantastique promesse? Ou est-ce que c'est tout simplement une bulle médiatique? Le discours médiatique sur l'intelligence artificielle, cette intelligence numérique potentiellement capable de dépasser celle de l'homme, oscille depuis toujours entre l'effroi et le rêve. Quelle est la part du mythe et quelle est la part de réalité? Il était temps que nous nous arrêtions ici sur ces terrifiantes et mirifiques images, Capucine, avec nos quatre invités qui se trouvent être quatre humains encore pour l'instant.
On espère que ça peut durer encore quelques émissions. Laurent Alexandre, vous êtes chirurgien-urologue, mais vous avez aussi cofondé Doctissimo avant d'investir dans une entreprise de séquençage ADN, DNA Vision. Et vous prenez régulièrement la parole dans les médias pour prévenir des transformations profondes que les nouvelles technologies vont provoquer, selon vous, dans le monde, notamment dans votre dernier livre, La guerre des intelligences. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie, vous êtes chercheur en intelligence artificielle et vous avez publié un livre en février 2017, Le mythe de la singularité, dans lequel vous réfutez donc ce mythe soutenu par certaines personnalités de la Silicon Valley, c'est-à-dire l'idée que l'intelligence artificielle puisse dans un avenir proche dépasser celle des humains. Je résume de manière grossière. Irénée Regnault, vous êtes le fondateur de l'association Le Mouton Numérique et auteur du blog Méouvel Web, dans lequel vous interrogez notre rapport aux innovations technologiques avec un prisme technocritique. Global. Et Tiffany Blandin, enfin, vous êtes journaliste indépendante et vous êtes intéressée récemment à l'intelligence artificielle, mais plus spécifiquement à ses effets à venir sur le travail, ou plutôt sa disparition, dans un livre « La fin du travail ». Un monde sans travail, pardon.
Alors, pour prendre la mesure de l'importance du thème et de l'expression de l'intelligence artificielle dans les médias, vous avez fait une petite promenade, Capucine, dans les titres des médias en ligne ces
Exactement.
Derniers jours et ces dernières semaines.
C'était pas difficile, puisque l'intelligence artificielle est partout et va résoudre tous les problèmes, du moins si on en croit la presse. Alors, elle pourrait révolutionner l'éducation, par exemple avec ce merveilleux petit robot qui apprend aux enfants le tai chi. La pratique de la médecine, selon Le Monde, par exemple, aider à mieux diagnostiquer les cancers. Voire aider les sourds et les malentendants en sous-titrant les appels téléphoniques. Mais elle pourrait aussi décider seule de tuer un soldat ennemi. D'ailleurs, les experts en intelligence artificielle s'en alarment. Elle pourrait aussi aider les avocats, créer un recrutement neutre et sans préjugés, délester des failles humaines. Mais elle pourrait aussi, et ça fait un peu plus peur, remplacer les journalistes. Ça nous fait évidemment très peur. Mais on espère que ce ne sera pas ce robot-là, parce que ce serait encore pire pour les émissions. Voire faire disparaître totalement le marketing. Et elle pourrait, enfin, 70 ans après la guerre, on l'a appris il y a quelques jours, trouver le délateur d'Anne Frank. Voilà, on est ravis. Mais aussi décider si une plainte est reçue à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, comme nous le dit Numérama, c'est effrayant.
Et évidemment, sous-jacent à toute cette couverture médiatique, la question, mais est-ce qu'elle pourrait se retourner contre nous, les pauvres humains?
En tout cas, dans la presse, on a l'impression parfois que c'est possible. Par exemple, en novembre 2016, on a appris que deux intelligences artificielles de Google ont réussi à communiquer dans une langue inconnue. Alors évidemment, ça fait un peu peur, parce qu'on se demande si on ne va pas raconter des choses un peu dangereuses. Et d'ailleurs, Jacques Attali a écrit une tribune dans l'Express appelant à arrêter tout ça avant qu'il ne soit trop tard. On était d'autant plus inquiets. En réalité, c'est un peu moins effrayant. C'est une expérimentation de Google Brain avec trois intelligences artificielles visant à déterminer si deux d'entre elles pouvaient réussir à crypter leur communication sans que la troisième ne puisse déchiffrer ce qu'elle disait. Et effectivement, ça a bien réussi puisque les chercheurs eux-mêmes ne parvenaient pas à le comprendre. Mais en août 2017, à nouveau, on a eu très peur, même ici on a eu peur, Facebook a paniqué et débranché deux intelligences artificielles qui s'étaient mises à parler dans leur propre langue. Ça, c'est Fox News, donc en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les chercheurs tentaient d'entraîner une intelligence artificielle à la négociation marchande. Et c'est Le Monde qui nous raconte comment le scientifique de Facebook s'est réveillé avec, sur son fil Twitter et Facebook, des articles alarmistes expliquant comment le monde allait être détruit dans les heures qui venaient. Et c'est en fait, comme j'ai expliqué, une négociation marchande avec deux intelligences artificielles qui devaient se partager des objets, donc deux livres, un chapeau et trois ballons. Donc Bob et Alice devaient échanger, mais chaque objet n'avait pas la même valeur, comme dans des négociations humaines, on veut donner l'impression que je tiens vraiment beaucoup à ce livre pour le vendre plus cher. Et finalement, quand elles se sont mises à négocier entre elles, voilà ce qui s'est passé. Elles ont développé un langage un petit peu alternatif à l'anglais, que, là, ici, au français.
Traduit en français, là.
Je peux, je, tout le reste. Pas si effrayant que ça.
Mais on les faisait quand même négocier. Alors, il y a une première question, mais vraiment tout à fait basique, et on va voir si on est tous d'accord sur la définition. À partir de quand faut-il parler d'intelligence artificielle? C'est-à-dire à partir de quand l'ordinateur tel qu'on le connaît, le robot dans une unité de fabrication telle qu'on le connaît, qui est capable de faire toujours le même geste, et y compris parfois des gestes un peu plus sophistiqués, comme de replacer une pièce sur un tapis roulant, à partir de quand ça devient de l'intelligence artificielle? Alors, M. Yanassia, tiens.
Alors, il y a deux sens au terme intelligence artificielle. Il y a un sens historique, c'est une discipline scientifique qui est née en 1956 et qui a pour but de décomposer l'intelligence en facultés élémentaires, la mémoire, la vision, le raisonnement, la démonstration, tout ça, on est capable de le modéliser avec des machines. Ça a fait l'objet d'énormément de recherches, ça permet de mieux comprendre notre intelligence, même d'essayer d'élucider ce qu'est l'intelligence, puisque ça reste un mystère. On n'a pas défini l'intelligence pour créer l'intelligence artificielle, puisque c'est pour explorer l'intelligence qu'on a fait l'intelligence artificielle. Et puis ça a des retombées pratiques considérables, parce que ces facultés, une fois qu'elles sont simulées, peuvent entrer dans différents dispositifs. C'est ce qui se produit aujourd'hui et ça transforme le monde. En sens, quand vous avez dit, il y a des risques, des promesses et une bulle médiatique, il y a les trois à la fois.
Alors, mais à partir de quand on peut dire qu'une machine est une intelligence artificielle? Pour donner des exemples très concrets.
Je vais revenir au deuxième point. Hein, vous avez dit une intelligence artificielle, des intelligences artificielles. Et ça n'est pas la même chose. L'article fait tout. L'intelligence artificielle, il n'y en a qu'une, c'est une discipline qui aborde les différentes facultés. Maintenant, une intelligence artificielle, c'est une entité qui va être programmée avec des techniques d'intelligence artificielle et qui nous paraît intelligente. Alors là, à partir de quel moment elle nous paraît intelligente, ben, ça dépend du contexte, bien sûr.
Plus avancé. Donc, une entité qu'on qualifie d'intelligence artificielle, c'est une entité que nous estimons intelligente.
Exactement. Et je voudrais aller juste un tout petit peu plus loin là-dedans, parce que cette notion a été théorisée très tôt, avant que le terme ait été inventé par Turing, le test de Turing. Il dit qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est une espèce de jeu de rôle dans lequel il y a une machine qui va nous paraître intelligente. Et ensuite, ça a été repris par énormément de chercheurs dans les années 80.
Alors, est-ce qu'une entité intelligente, c'est quelque chose d'aussi subjectif qu'une entité qui nous paraît intelligente? Ou est-ce que vous avez une autre définition?
Non, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Gabriel. Une intelligence artificielle, c'est ce qui nous semble intelligent. Et d'ailleurs, nous ne connaissons qu'une forme d'intelligence conceptuelle, c'est la nôtre. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on le fait par comparaison avec notre intelligence biologique. C'est d'ailleurs tout l'apport d'un auteur anglo-saxon très intéressant qui est Kevin Kelly, de dire, mais attention, l'intelligence artificielle va avoir des formes d'intelligence différentes de notre intelligence humaine, et nous sommes trop anthropomorphiques, et donc nous allons découvrir des formes nouvelles d'intelligence grâce à l'IA, et ça va nous bouleverser parce qu'en réalité, notre définition de l'intelligence est extrêmement restrictive parce que nous ne voyons que notre propre intelligence.
Je suis extrêmement déçu. Moi, je pensais qu'il y avait des critères objectifs à partir desquels on pouvait dire, voilà, là, il y a une entité...
Il faudrait que l'intelligence soit comprise, soit définie, pour qu'on puisse qualifier l'intelligence artificielle finement. Or, ça n'est pas le cas. Nous connaissons extrêmement mal notre cerveau et notre intelligence.
Vous êtes d'accord avec cette définition
J'ai rien à ajouter, si ce n'est que ça mélange plein de choses qui sont de l'ordre du traitement automatique du langage, c'est-à-dire de la compréhension... du langage humain et de la restitution d'un autre langage. Donc ça, c'est l'essence même du test de Turing. On parle à une machine, on essaye de comprendre ou pas que c'est une machine, et si on ne comprend pas, c'est qu'on considère que la machine est intelligente. Ça, c'est le test de Turing. Il y a aussi d'autres applications qui sont industrialisées aujourd'hui absolument partout, qui sont la reconnaissance d'images, par exemple, où là, pour le coup, on va mettre ces technologies dans des voitures qui se conduisent toutes seules ou dans des tas d'applications qui permettent autant à un médecin d'interpréter par exemple une image, par exemple un radiologue, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé derrière.
Mais on parle quand même de choses très différentes. Pour moi, une voiture qui se conduit toute seule, c'est une machine dans laquelle on va rentrer des données, des millions, des milliards de données, que sais-je, qui vont lui permettre de voir s'il y a des voitures à côté, s'il y a des dangers, s'il y a des piétons, etc. À partir du moment où on programme deux machines pour négocier ensemble, c'est-à-dire feindre, faire semblant de désirer un objet, ne pas le désirer, être récompensé, puisque dans le cas des deux intelligences dont vous parliez, Capucine, il y avait des récompenses pour la machine qui réussissait. Il me semble qu'on est dans autre chose ou pas ?
Moi, je voulais juste ajouter, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur vos différentes définitions, moi, j'ai découvert en fait ce que c'était l'intelligence artificielle au début de cette enquête. J'ai consacré tout un chapitre au début de mon livre sur expliquer vraiment au grand public ce que c'est que cette intelligence artificielle, sans entendre parler dans tous les médias.
Vous avez compris ?
J'ai pris du temps à comprendre, parce qu'effectivement, quand on va voir les chercheurs, chacun un petit peu sa conception, moi, ce que j'ai retenu, vous allez me dire si je me trompe, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, parce que c'est une intelligence artificielle qui est spécifique. C'est-à-dire, pour reprendre un peu la métaphore que m'a donnée un chercheur de Microsoft que je suis allée rencontrer, on a des petites parties du cerveau aujourd'hui qui sont capables de fonctionner, mais on n'a pas du tout le cerveau entier. Elles ne sont pas capables de communiquer entre elles. Donc, on n'a pas d'intelligence générale. Voilà.
Heureusement.
Bah oui, mais en même temps, vous dites on n'a pas d'intelligence générale, mais en même temps, si c'est nous qui décidons à partir de quel moment une machine est intelligente, on peut aussi bien décider qu'on a une intelligence générale.
Vu la vitesse à laquelle travaille l'intelligence artificielle, si elle avait conscience d'elle-même, si elle était multidisciplinaire, si elle était transversale, elle serait rapidement dangereuse. Heureusement, comme Jean-Gabriel Ganassiel a très bien montré dans son bouquin, on est très 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 loin d'avoir une intelligence artificielle générale ayant conscience d'elle-même. Heureusement. Parce que là, il y aurait un vrai danger si c'était le cas, mais heureusement, ça n'est pas le cas.
Alors évidemment, la conscience de soi-même, là, on sent bien intuitivement qu'il s'agit d'une barrière, qu'il s'agit de quelque chose de décisif. Est-ce que le fait qu'une machine ait conscience d'elle-même, c'est quelque chose qui, selon vous, pourra arriver un jour ?
Ah, ça, peut-être. La question de la conscience est compliqué parce que le terme recouvre des choses très différentes. Lorsque nous avons un petit aspirateur robotique qui se promène, on lui attribue une personnalité. Il y a même des gens qui dessinent des petites robes pour ces aspirateurs. Il y a une forme de conscience et une conscience qu'on projette, une conscience comportementale.
Mais une conscience qu'on projette, c'est pas une conscience. Enfin, nous projetons une conscience. Enfin,
c'est de l'animisme. Mais oui. vous projetez une âme sur les objets.
Oui.
Et c'est très important
l'aspirateur n'a pas d'âme, on est bien d'accord.
Il n'a pas d'âme, mais on lui projette. Et c'est essentiel parce que toutes les interfaces homme-machine sont conçues sur ce principe. Lorsqu'on parle d'émotion, de calcul des émotions, d'empathie artificielle, c'est de ça dont on parle. Et donc, ça joue un rôle extrêmement important. Ça, c'est le premier aspect de la conscience, conscience comportementale. Puis, un deuxième aspect de la conscience, qui est ce que vous avez évoqué ici, le fait de se représenter soi-même. C'est-à-dire de se voir, de s'examiner.
Ce qu'on entend habituellement par conscience.
Non, vous allez voir qu'il y a un troisième aspect. Ce deuxième aspect, on peut tout à fait imaginer qu'une machine soit capable de le maîtriser. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une machine examine ses traces de calcul et à partir de ça se dise « Ah ben là, pour faire telle tâche, je me suis mal débrouillé, la prochaine fois je ferai autrement. »
Ça, c'est se représenter soi-même ou c'est s'évaluer soi-même ?
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Bien sûr, c'est de ça dont on parle. Et ça n'est pas du tout impossible. Et on peut avoir des machines qui se perfectionnent progressivement en utilisant ce genre de choses. Il y a eu des travaux.
J'ai du mal à voir la correspondance absolue entre se représenter et s'évaluer. Il me semble qu'une machine peut facilement s'évaluer si on lui apprend à s'évaluer. Est-ce qu'elle peut se représenter, par exemple, est-ce qu'elle peut se vexer d'avoir mal fait ou d'avoir pas aussi bien fait qu'elle aurait pu ?
Disons qu'elle peut se rendre compte qu'elle n'a pas bien fait et à partir de ça, essayer de changer son comportement. Puis un troisième aspect, c'est peut-être de ça dont vous voulez parler, qui est le fait de ressentir une émotion. Pas simplement de mimer une émotion.
Oui, quand je parle de vexation, effectivement, je parle d'émotion.
D'avoir mal, effectivement.
Et alors là,
c'est un mystère.
C'est un mystère.
Pour l'instant, on n'en sait rien.
On ne sait pas si elles y arriveront un jour, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, alors là-dessus, on est très éloigné. Là, on n'a vraiment aucune connaissance sur ce sujet-là.
Et alors, on voit bien qu'en même temps, tous les fantasmes charriés par les deux exemples de traitement médiatique outrancier que donnait Capucine tout à l'heure, on a dû la débrancher parce qu'elle allait nous échapper. On voit bien que tous ces fantasmes sont nourris par des décennies et des décennies de films, notamment. Moi, pour ne prendre qu'un exemple, un film de ma jeunesse, 2001, l'Odyssée de l'espace, où effectivement, dans un vaisseau spatial, la machine, tout d'un coup, entreprend de dominer l'homme. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans les imaginaires.
Oui, mais ça nous éloigne du vrai sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, on fantasme sur une intelligence artificielle forte, ayant conscience d'elle-même et hostile, et ayant des émotions propres. Et Ganassia a très très bien montré qu'on en est loin, 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 loin. On s'occupe de ça et on ne s'occupe pas du vrai problème qui est que des intelligences artificielles faibles, sans conscience d'elles-mêmes et cons comme une bite, sont capables de faire de mieux en mieux des tâches humaines. Conduire un camion, conduire une bagnole, remplacer un comptable, analyser un scanner. Et donc le vrai danger, c'est qu'on finalement, on ne s'occupe pas de ce qu'il faut régler, c'est-à-dire l'éducation, la formation des gamins pour éviter qu'ils soient laminés par ces intelligences artificielles faibles. Et au lieu de faire ça, on s'occupe de fantasmer sur des IA fortes alors qu'on est à des décennies, peut-être des siècles, d'avoir une IA forte.
Oui.
Je rejoins complètement Laurent Alexandre sur cette question. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est effectivement, c'est ce que j'ai conclu, il n'y a pas de vraie intelligence artificielle. Les logiciels d'intelligence sont très bêtes en fait, mais ils sont quand même infiniment plus intelligents que les humains sur certaines
tâches. Sur des tâches spécifiques.
Voilà. Sur des tâches très spécifiques. Et en fait, ils sont très très forts sur toutes les tâches qui consistent à repérer quelque chose dans une grande quantité d'informations en gros. Et donc ça, très concrètement, ça permet de faire des choses comme des logiciels qui vont prendre des rendez-vous, qui vont gérer un agenda à la place de secrétaire, qui vont donner des conseils bancaires, qui vont aller chercher des conseils juridiques dans une grande base de données des avocats, donc de remplacer des avocats. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se passer aujourd'hui, même si l'intelligence artificielle n'existe pas, pour moi, elle a déjà des conséquences qui sont, mais encore inimaginables sur la société, en fait.
Non, mais on voit bien qu'on est dans un type d'intelligence très différent de l'intelligence humaine, par exemple. Pour ce qui est d'une des tâches que vous mentionnez, la prise de rendez-vous par une secrétaire, effectivement, une IA, une intelligence artificielle va être capable d'agencer un agenda. Elle n'est pas encore capable, pour l'instant, de savoir qu'il ne faut pas mettre le rendez-vous de Monsieur Machin juste après le rendez-vous de Madame Bidule, parce que Monsieur Machin et Madame Bidule ne doivent pas se croiser dans la salle d'attente.
Ça, c'est très facile.
Comment elle sait que Monsieur Machin et Madame Bidule...
Elle récupérera sur les téléphones portables et ce ne sera pas un problème. Non, la vraie difficulté qu'on a, c'est qu'il y a des tâches relativement complexes qui commencent à être faites par l'IA. Le Rockefeller Institute à New York, qui est l'un des plus grands centres de génétique au monde, a montré que son IA analysait la génétique du cancer 1000 fois plus rapidement que les meilleurs généticiens du cancer de New York. 1000 fois plus vite. Intelligence artificielle en 2017 va 1000 fois plus vite que les meilleurs généticiens du cancer, vous imaginez si les cadres moyens ont du souci à se faire à cause de ces IA faibles dans les 20 années qui viennent.
Alors, cette peur diffuse dont je parlais, alors elle est peut-être provoquée par un certain nombre de films qui nous ont marqués, elle est aussi entretenue par un certain nombre de personnalités éminentes comme Elon Musk.
Exactement, qui est une personnalité très importante de la Silicon Valley, fondateur de PayPal, PDG de Tesla Motors, qui conçoit en ce moment la voiture autonome, qui veut réaliser un TGV allant à 1200 km/h, l'Hyperloop, et clame vouloir envoyer des gens sur Mars dès 2024 grâce à la société SpaceX. Et pourtant, cette personne, qui est donc une personnalité quand même importante de l'intelligence artificielle, nous prévient de ces dangers dans des termes qui semblent antithétiques et que vous venez de nous raconter. On écoute.
It is the biggest risk that we face as a civilization is artificial intelligence. Most dangerous is, and it's the hardest to kind of wrap, kind of get your arms around because it's not a physical thing, is kind of a deep intelligence in the network. He said, well, what harm could a deep intelligence in the network do? So, well, it could start a war by doing fake news and spoofing email accounts and fake press releases and just by, you know, manipulating information.
Alors, est-ce que les risques soulignés par Elon Musk sont réels,
alors,
selon vous ?
Une intelligence artificielle faible, ne sachant même pas qu'elle existe, pourrait effectivement créer une guerre. Il y a un très beau papier de Thierry Berthier dans la revue de la gendarmerie là-dessus, qui montre comment des IA faibles sans conscience artificielle pourraient créer une guerre en diffusant effectivement des faux messages.
Si elles sont programmées par des institutions humaines.
Elles vont être programmées par des institutions humaines, mais elles vont échapper et elles vont avoir des comportements qu'on ne va pas pouvoir maîtriser parce qu'elles gèrent tellement de data qu'on ne peut pas tout tracer. Vous savez, un réseau de neurones, ça approche 1 milliard de neurones virtuels dont les coefficients changent à chaque seconde. Donc on ne peut pas tracer, on ne peut pas checker, on ne peut pas surveiller. Et dans le cas de logiciels de cyberguerre développés, il pourrait y avoir des effets malsains de plusieurs IA faibles qui pourraient avoir des comportements que l'on n'observe plus suffisamment vite en quelques millièmes de seconde et qui pourrait avoir des effets catastrophiques. Ce seraient des IA faibles, sans conscience d'elles-mêmes, mais qui pourraient être très très dangereuses.
Mais ce serait de l'ordre du bug, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas d'intention de provoquer une guerre, ce serait de l'ordre du bug. Vous dites le bug est possible.
Ce serait de l'ordre du bug, mais n'oubliez pas qu'une intelligence artificielle, ça ne se programme pas vraiment. Ce serait un concours de circonstances malheureux de la façon dont l'IA s'est éduquée.
On a l'impression dans les films dont on a parlé tout à l'heure que l'intelligence artificielle devient dangereuse quand elle prend conscience du fait qu'elle est artificielle et donc se retourne contre ses créateurs. Non. Mais en fait, notamment l'exemple d'Elon Musk, il donne l'exemple d'une intelligence artificielle qui voudrait augmenter les valeurs de certaines actions et qui en fait provoquerait une guerre parce que ce serait le meilleur moyen de remonter les actions. C'est un peu ça, c'est ce type de, pour une finalité qui est à la base, disons, normale dans le champ de la programmation, elle va en fait provoquer des événements presque accessoires, mais qui sont énormes pour nous. Quoi. C'est un peu ça dont...
Je crois qu'il faut bien voir que Elon Musk se nourrit énormément de science-fiction. SpaceX a pour ambition de faire aller les hommes sur Mars. C'est une idée assez ancienne que nous avons depuis longtemps. Il explique que l'intelligence est un danger existentiel. Il n'a pas dit que c'est un danger concret, ce dont on parle avec Thierry Berthier et ce dont parle Laurent ici. Et il a monté une société qui s'appelle Neuralink en mars 2017, où il explique « L'intelligence artificielle est tellement dangereuse qu'il faut équiper l'homme pour qu'il rivalise avec l'intelligence artificielle. » Alors, c'est encore pire, bien sûr. C'est-à-dire qu'il va nous mettre un disque dur sur notre cerveau pour que nous étendions notre mémoire.
Alors, ce qui nous amène sur le sujet du transhumanisme, qu'on ne va pas aborder ici, parce que ce serait encore un autre sujet, on y consacrera éventuellement une autre émission, mais c'est la raison pour laquelle, pensez-vous, Musk agite ce genre d'angoisse. C'est pour promouvoir sa petite entreprise transhumaniste.
Les principales personnes aujourd'hui qui sont critiques et qui soulèvent un petit peu justement les inquiétudes sur l'intelligence artificielle sont les personnes qui elles-mêmes la nourrissent et sont en train de la construire. Donc il y a un paradoxe là-dedans. Il faut voir qu'Elon Musk.
On explique comment ce paradoxe.
Parce que Elon Musk c'est aussi un entrepreneur, alors qui a un côté génial, c'est vrai, qui a une représentation du monde qui est assez particulière. En effet, envoyer les gens sur Mars, il y a. Si vous voulez, Elon Musk est quelqu'un qui pense que les technologies sont quelque chose d'exponentiel, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, mais nous dit comme quelque chose de l'idéologie qui est sous-jacente, qui pense que, en gros, des individus géniaux aujourd'hui, grâce à la technoscience, vont pouvoir régler les problèmes de l'humanité, et que, par conséquent, typiquement, il n'y aurait pas vraiment de limite physique à la planète, que quand on n'aura plus de ressources, on ira sur Mars pour aller en chercher d'autres.
Mais alors ça, c'est formidable, mais pourquoi il agite les risques, alors pourquoi il agite les menaces?
Mais parce qu'il a besoin aussi, à titre personnel, je ne le connais pas, donc c'est sûrement un gros égo, ça, c'est une partie de la chose. Il ne sera pas le premier aux États-Unis. On dit qu'il est un évangéliste de l'intelligence artificielle, le mot n'est pas choisi au hasard. Les évangélistes, c'est des gens toujours qui ont pris l'humanité dans des moments un petit peu difficiles, un petit peu durs, pour leur dire « Jésus est en moi, je le reconnais, il est là, etc. » Donc, si vous voulez, à tous les problèmes complexes, il y a une solution technologique simple, et souvent, c'est une mauvaise solution. Elon Musk, il est là pour aussi vendre des hyperloops, c'est-à-dire des trains qui vont très vite, pour avoir des investisseurs qui, derrière, vont soutenir ces projets qui sont un peu pharaoniques, et qui quelque part a un côté aussi un peu totalitaire dans sa façon d'appréhender les choses.
Donc à la fois un évangéliste et quelqu'un qui sciemment entretient une bulle capitalistique et boursière.
Je crois qu'on a affaire à de la spéculation au sens étymologique, c'est-à-dire un miroir. Et donc il nous fait des promesses qui sont hyperboliques. Il nous explique qu'on va aller sur la Lune, qu'on va étendre notre cerveau. Vous vous rendez compte, on n'a plus besoin d'apprendre. Tout ça se fait automatiquement. Et bien sûr, ça n'a aucune réalité.
Mais comme il réussit plutôt souvent, avec un peu de retard, ce qu'il promet, c'est crédible. Et donc, il crée des anticipations très fortes sur l'IA. Et beaucoup de gens finissent par se dire, dans la communauté intellectuelle, je ne parle pas de la communauté de l'IA, disent effectivement, on va être laminé par l'intelligence artificielle et notre seule chance, c'est les implants intracérébraux de Musk, de Neuralink. Il y a là une prophétie autoréalisatrice qui pousse les gens à accepter le remède. Mais c'est un peu la définition du pompier pyromane, finalement. Je mets le feu et après, il faut aller éteindre l'incendie. J'explique que l'IA va tous nous igouiller et nous marginaliser. Et finalement, les parents acceptent de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de leurs enfants.
C'est bien résumé. Alors, pour qu'on ait une petite idée de l'échelle de temps que tout ça peut prendre, il y a un exemple qui est intéressant et qui est en même temps un exemple très grand public sur l'intelligence artificielle, c'est sa capacité de triompher de l'intelligence humaine dans un certain nombre de jeux de stratégie.
Voilà. En tout cas, c'est la manière dont le grand public a peut-être le mieux fait connaissance avec l'intelligence artificielle. Donc, très récemment, en mai 2017, quand une intelligence artificielle conçue par Google DeepMind a battu le champion mondial du jeu de Go, Kei Jie, j'espère que je prononce bien, en Chine, là où le jeu a été inventé.
Lee Sedol, champion du monde de jeux de Go, croyait encore hier pouvoir battre le programme d'ordinateur AlphaGo, conçu par une filiale de Google. Mais après 3 heures de partie âprement disputée, le jeune Sud-Coréen a dû s'incliner devant la machine.
Jusqu'à la fin, j'y ai cru, mais je ne pensais pas qu'AlphaGo jouerait aussi bien. J'ai vraiment été surpris.
Le concepteur du programme, lui, a eu le triomphe modeste.
L'avantage d'AlphaGo, c'est qu'il n'est jamais fatigué et jamais intimidé. Lee Sedol était très confiant et un adversaire humain aurait pu être déstabilisé. Mais AlphaGo est un ordinateur, donc il ne s'est pas laissé impressionner.
C'est pourtant un jeu qui paraît simple, des pierres noires et blanches que l'on dispose sur les intersections d'un plateau afin de construire des territoires et d'encercler l'adversaire. En fait, il existe des milliards de combinaisons. C'est là qu'interviennent les principaux atouts de l'ordinateur, sa mémoire et sa puissance de calcul. La victoire d'AlphaGo montre que l'intelligence artificielle a progressé à pas de géant. La question qui se pose maintenant est, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ?
Alors voilà, c'est très bien, mais il y a un précédent déjà lointain.
Un précédent très connu en 97, quand un super ordinateur d'IBM a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, et on va le voir sur la vidéo, ça ne lui a pas plu du tout.
Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockés dans les laboratoires d'IBM et implantés dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie, doté d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. L'homme, après avoir tâtonné, douté, souffert, n'avait plus que la sixième partie pour prouver sa supériorité. Il s'est incliné et ça n'est pas dans ses habitudes. L'ogre de Bakou, d'ordinaire impassible, a dû aller jusqu'au bout de l'humiliation. Il conteste à présent l'impartialité du match. Pour lui, les dés ont pu être pipés.
Je pense qu'il est temps pour Deep Blue de jouer aux vrais échecs. Et je peux vous promettre à vous tous que si Deep Blue joue à la régulière, je vous le garantis, je le réduis en pièces.
Côté organisateur, on admet non sans peine que la machine était ajustée après chaque partie. La machine est-elle chaque jour rendue plus intelligente ?
Quand on voit des problèmes apparaître, on corrige.
Dans l'univers des échecs, c'est la première fois qu'un champion du monde est battu par un ordinateur, fût-il surpuissant. Garry Kasparov est bien décidé à savoir comment la machine l'a battu et aussi à prendre sa revanche.
Alors, sur le strict plan de l'image, on appréciera la manière dont la télé met en scène l'humiliation de Kasparov, avec force gros plan de cette humiliation. Alors, juste, moi, ce qui m'a frappé en voyant ces deux extraits, la première chose, c'est les 20 ans de distance. C'est-à-dire qu'il a fallu 20 ans pour passer d'un triomphe de la machine aux échecs à un triomphe de la machine au jeu de Go. 20 ans, c'est beaucoup, c'est peu.
C'est très peu parce que le jeu de Go est très compliqué. Et au moment de ce match où Kasparov a perdu, le New York Times avait publié qu'il faudrait entre 100 et 200 ans pour qu'un ordinateur apprenne à jouer au jeu de Go. Donc en fait, c'est allé très vite. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Kasparov a avoué dans son livre, qu'il vient de sortir il y a quelques mois, qu'il avait fait une grave dépression derrière. Il a mis plus de 10 ans pour accepter. Plus de 10 ans. Et il dit maintenant, au bout de 20 ans, je commence à accepter, je commence à digérer, mais ça a été une humiliation terrible. À l'opposé, le champion du monde hein, de jeu de Go, qui a été écrabouillé aussi par Google DeepMind, récemment a dit « j'ai été bouleversé ». C'est-à-dire, j'ai découvert un jeu que je ne connaissais pas, j'ai découvert une forme d'intelligence que je ne connaissais pas, ça a bouleversé, c'est une expérience quasi mystique qu'il a eue en rencontrant Google DeepMind qu'il a battu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, l'intelligence artificielle, même faible, elle nous transforme parce qu'elle nous fait découvrir d'autres modes de fonctionnement intellectuel que ceux auxquels nous sommes habitués. C'est un aiguillon extraordinaire. L'IA faible nous fait sortir de notre zone de confort.
Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, les machines sont construites par des grands entrepreneurs du numérique américain, hein, IBM dans le premier cas et Google dans le second. Ce qui pose la question, évidemment, de se demander si ces grandes boîtes ne font pas une espèce d'immense propagande internationale à travers des exemples comme ça spectaculaires et propres à frapper les imaginations.
Bien évidemment, il y a une stratégie commerciale. Mais derrière, il y a des hommes quand même. Hein. Vous avez vu la figure de Demis Hassabis, hein. c'est un Anglais qui vient d'une famille très modeste d'immigrés et qui croyait dans les techniques d'apprentissage machine et qui a mis en œuvre cela. Et ensuite, il a monté une petite société que Google a rachetée. Donc certes, il y a eu Google derrière qui a popularisé, qui a donné les moyens d'aller jusqu'au bout, mais au départ, il y a quand même des hommes qui sont derrière. Et ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'est tout à fait vrai, c'est que ces machines nous aident à être meilleurs, nous permettent de mieux comprendre, nous dépassent bien sûr, mais en même temps, ce sont des partenaires, ce ne sont pas des entités qui s'opposent à nous. C'est pour ça que lorsqu'on dit une intelligence artificielle, c'est tout à fait excessif. En revanche, avec l'intelligence artificielle, les techniques d'intelligence artificielle, je crois qu'on est capable de démultiplier l'intelligence humaine, et ça, c'est quelque chose de passionnant dans le domaine scientifique, on peut aller beaucoup plus loin.
Tiffany Blandin.
Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que en ce moment, en fait, on est en train de vivre un nouvel âge d'or de l'intelligence artificielle avec le développement du deep learning, donc ce qu'on appelle en français l'apprentissage profond.
Et c'est, on peut, point, pouce, on peut le définir c'est une expression qu'on a rencontrée en permanence dans la préparation de cette émission. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage profond? Comment on peut le définir simplement?
Enfin, moi, je peux, disons, très brièvement, on a affaire à des technologies assez anciennes de réseaux de neurones formels. C'est une imitation de ce qu'il y a dans notre cerveau. Dans notre cerveau, il y a des cellules qu'on appelle des neurones et des connexions entre ces cellules. En réalité, il y a bien d'autres choses dans le cerveau, dont les cellules, dont nous ne parlons pas là. Mais c'est une modélisation qui est très ancienne, qui a été écrite, mise en scène en 1943.
D'accord. Alors, l'apprentissage profond, c'est quoi?
Alors, ensuite...
Quand est-ce qu'il y a l'apprentissage profond?
Justement, pour qu'on comprenne bien, ce sont des structurations en couches. Il y a des couches de neurones et des couches de synapses. On montre qu'avec trois couches, on arrive à apprendre n'importe quelle fonction logique. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il faut arriver à les réaliser, ces fonctions logiques. Les programmer, c'est extrêmement difficile à la main. Donc, on a essayé de développer des techniques d'apprentissage. Et depuis 1943, on cherche à développer ces techniques d'apprentissage. Alors, au début, on l'a fait sur deux couches, mais bien sûr, ça permettait pas d'apprendre grand-chose. Ensuite, on l'a fait sur trois couches dans les années 80. Et puis, grâce à la puissance des ordinateurs, depuis 2010, on le fait sur des dizaines de couches, avec des millions, voire des centaines de millions de connexions. Et c'est ça qu'on appelle profond, profond parce qu'il y a beaucoup de couches.
Tout le monde est d'accord sur la définition. Alors, cette définition donnée, vous pouvez continuer.
Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a des, par rapport aux grosses sociétés de la technologie, c'est qu'à la base, il y a des humains derrière. Il y a par exemple un Français qui s'appelle Yann Lequin, qui croyait beaucoup à cette technique de deep learning, d'apprentissage profond, et qui était un peu vu comme un fou dans le milieu parce que personne n'y croyait, personne ne pensait que ce truc-là marcherait un jour. Et effectivement, à partir de dans les années 2000, il a commencé à faire des progrès spectaculaires avec cette technique, à publier, et tout le monde a vu que ça commençait à être complètement incompréhensible. Et c'est là qu'on a les grosses sociétés, on a les Facebook, les Google, etc., qui se sont dit, il y a quelque chose à faire, et ils ont commencé à s'intéresser au deep learning. Ils ont Facebook a recruté Yann Lequin, c'est maintenant le patron de leur labo d'intelligence artificielle. Ils ont commencé à racheter toutes les startups qui travaillaient sur cette intelligence artificielle. Et donc, en fait, on peut dire quelque part qu'elles sont arrivées aussi, même si elles ont développé aussi à l'interne, mais aussi après la bataille, à racheter tout ce qui fonctionnait.
Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pas de différence de nature entre l'apprentissage profond et un fonctionnement plus traditionnel. Il y a juste une différence de degré, c'est-à-dire que la seule différence, c'est une puissance de calcul infiniment plus importante. De la même manière que c'est cette... Mais arrêtez-moi si je me trompe. C'est cet accroissement de la puissance de calcul qui explique qu'en 20 ans, on soit passé des échecs aux jeunes.
Le neurone du ver de terre et le neurone de nos cerveaux ne sont pas très différents. Et pourtant, nous ne raisonnons pas de la même façon. Donc cette augmentation du nombre de couches...
Mais on en a plus que, non ?
Ben oui, et ben là c'est pareil. On a progressivement des systèmes d'intelligence artificielle avec de plus en plus de neurones virtuels et de plus en plus de couches.
Je crois qu'il est important de dire deux choses. D'une part, que les réseaux de neurones formels ne sont qu'un modèle de l'activité du cerveau. Mais il y a plein d'autres choses qui se produisent dans le cerveau dont on ne connaît rien pour l'instant. Et donc, c'est un modèle qui peut rendre des services, qui a pu rendre des services en sciences cognitives et qui en rend en intelligence artificielle. Et puis, il y a d'autres techniques d'intelligence artificielle qui font de l'apprentissage machine. Par exemple, dans le cadre du logiciel qu'il a emporté, AlphaGo, qu'il a emporté sur le meilleur joueur au Go, il y avait deux techniques d'apprentissage. Il y avait l'apprentissage profond et ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. hein, qui est une autre technique que je ne vais pas décrire ici parce qu'elle est un tout petit peu compliquée. Et puis, il y a plein de choses. Moi, j'ai travaillé sur l'apprentissage symbolique, par exemple, hein, au début de ma carrière. Hein, et tout ça, ça fait partie des différentes tentatives qui ont été faites depuis le début pour doter les machines de cette capacité à tirer parti de leur propre expérience, éventuellement même à regarder ce que je disais tout à l'heure, une espèce de conscience se représenter soi-même pour s'améliorer.
Alors, il y a évidemment quelque chose qui est extrêmement important dans la programmation de ces machines, c'est les données dont on va les nourrir. Et c'est quelque chose qui peut être à l'origine d'un biais pointé par un certain nombre d'expériences.
Oui, alors notamment une des applications en intelligence artificielle, c'était pour aider la police. Une start-up de la Silicon Valley est arrivée avec une grande promesse, prédire le lieu et l'heure où seront commis les crimes. Et apparemment, ce serait une aubaine pour les patrouilles de police américaines que sont allées voir envoyées spéciales.
Billy Boyle travaille dans la police depuis 9 ans. Comme tous les matins, il s'équipe avant de partir en patrouille. Depuis 2 ans, Billy Boyle ne sort plus sans sa nouvelle arme, ses cartes, qu'il imprime tous les matins. Ses carrés rouges changent à chaque prise de service et lui indiquent où devraient avoir lieu les délits de la journée.
Allez, on y va.
Plus de patrouilles au hasard. Désormais, les cartes servent de guide à Billy Boyle. Dans son quartier, une dizaine de points chauds a été identifié. Des zones extrêmement précises de 150 mètres sur 150 mètres.
Là, on rentre juste dans une des zones.
Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose ici ?
Oui, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité qu'il se passe quelque chose ici, pendant mon service, entre 10h du matin et 9h du soir.
Un outil qui dit prédire l'avenir à partir des statistiques de la police.
On a transmis à Predpol toutes nos données des 10 dernières années en se concentrant sur le type de crime, le lieu du crime et la date et l'heure du crime.
Seuls ces trois types de données sont utilisés.
Ce que Predpol fait, c'est qu'ils analysent ces informations du passé. Et avec une équation mathématique, ils nous disent où il y a de fortes probabilités qu'aient lieu les futurs délits.
Voilà, sauf qu'il y a un problème.
Bah, la même émission d'envoyé spécial se demande si ça marche si bien que ça.
Patrick Ball est scientifique. Il a fondé une petite ONG qui se sert des statistiques pour défendre les droits de l'homme. Pour Patrick Ball, l'ordinateur pourrait être biaisé au point même de devenir raciste. C'est ce qu'il veut nous démontrer avec ce schéma.
Voici le plan d'une ville. Comme dans la plupart des villes américaines, les Afro-Américains vivent dans le même quartier. Là, c'est les autres. Imaginons que la police, ici en bleu, soit surtout présente dans le quartier afro-américain. Maintenant, je vais dessiner en rouge là où sont les délits. Selon le logiciel, dans quel quartier est-ce qu'il y aura les prochains délits ? Dans le quartier afro-américain. Parce que c'est là que la police va. Et où que la police aille, elle trouvera des infractions. Donc elle y va, elle trouve des délits. Elle rentre les données dans le logiciel et le logiciel leur dit « Retournez là-bas ». Et donc ils retournent là-bas et ils trouvent plus de délits. La donnée de la race n'a pas besoin d'être dans le logiciel pour que le logiciel soit raciste.
Bon, moralité, on voit bien que la machine la plus intelligente ne peut raisonner qu'à partir des données qu'on lui enfourne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se corriger ?
L'apparition de biais dans l'intelligence artificielle est obligatoire. Et il faut faire très attention, il faut les checker, il faut beaucoup réfléchir à la gouvernance, à la régulation des intelligences artificielles, parce qu'il va y avoir autant de biais dans l'intelligence artificielle qu'il y a de biais dans notre cerveau. Mais il ne faudrait pas croire que le cerveau humain n'a pas de biais. Nous avons plein de biais. Nous sommes malheureusement souvent racistes, nous sommes malheureusement souvent xénophobes, nous restons sur des impressions stigmatisantes vis-à-vis de sous-groupes, etc. Donc il n'y a pas que l'IA qui puisse être raciste, nous le sommes aussi, il suffit d'aller se promener sur Internet pour voir à quel point il y a des comportements déviants et inacceptables. Il est normal que des intelligences artificielles faibles, nourries par des hommes avec des volumes de données qui ont été produites à partir des hommes, reproduisent un certain nombre des biais. Et l'un des métiers importants dans le futur, l'une des tâches importantes du politique, ça va être d'organiser la gouvernance de l'IA pour éviter que l'IA devienne stigmatisante et reproduise nos biais les plus infâmes.
On est armé ? Enfin, je veux dire, les gouvernements sont armés
C'est super compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, on parle, par exemple, d'une intelligence artificielle utilisée par la police, mais la police ne va pas avoir des ingénieurs aussi bons que les ingénieurs qui sont chez les géants du numérique, les Google, Apple, Facebook, Amazon. Et donc, on risque d'avoir moins de correction des biais dans l'administration, parce qu'elle ne peut pas avoir des informaticiens et des spécialistes de l'IA de même niveau qu'il y a dans les GAFA. Il ne faut pas oublier un truc épouvantable. Mais les très bons ingénieurs de la Silicon Valley sont payés jusqu'à 1 à 2 millions de dollars, pas par an, par mois, comme Lewandowski chez Google, avant que Google se fâche avec lui. Entre 1 et 2 millions de dollars par mois. Évidemment que la fonction publique, la police, ne va pas payer ces informaticiens à ce prix-là et va avoir des informaticiens qui ne sont peut-être pas suffisamment armés pour corriger les biais de l'intelligence artificielle, parce que c'est ce qui va être le plus compliqué. Ce n'est pas le codage de l'intelligence artificielle, le problème. Ça va être la correction des biais, la gouvernance de l'intelligence artificielle, sa régulation, son contrôle.
Vous êtes conscient que ce que vous dites est absolument terrifiant. Est absolument terrifiant parce qu'on se dit, le contrôle va totalement échapper à ceux qui sont censés représenter l'intérêt général, c'est-à-dire les États, pour passer entre les mains des entreprises.
C'est l'ambition même, si vous voulez, de ces plateformes-là. C'est l'ambition même de ces plateformes-là. Aujourd'hui, le problème politique sous-jacent ici, alors évidemment, il y a les biais que Laurent Alexandre souligne, c'est nécessaire, mais c'est surtout qu'on est dans une administration des problèmes sociétaux, en fait. On va plaquer, si vous voulez, des solutions technologiques. Aujourd'hui, on voit ces policiers-là qui ont, dans un scénario totalement science-fiction, qui en viennent à croire qu'on va pouvoir prévoir les foyers de violence. Évidemment, ce n'est pas vrai. Évidemment, à tort, en tout cas pour le moment. En tout cas, pour le moment, c'est très contrasté, si vous voulez, parce qu'évidemment,
les foyers de violence. On n'a pas gardé l'extrême, mais l'émission d'envoyé spécial ne concluait pas vraiment sur le point de savoir si ça marchait ou pas.
Si vous voulez,
on ne savait pas vraiment à la sortie.
Si on veut réduire, à un moment donné, les violences, on ne va pas le faire en administrant mieux la présence de la police. Il n'y a pas que ça qui va compter, évidemment. Par ailleurs, quand les policiers vont arriver sur un endroit, il y a des nouvelles formes de violence qui vont exister, il y a des foyers de violence qui vont se déplacer. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut voir qu'il y a on est dans une société technicienne, si vous voulez, qui veut, notamment chez ces grandes plateformes, plaquer des solutions technologiques là où il y a des problèmes sociaux, avec la ferme conviction qu'on va y arriver. Et donc, encore une fois, on s'attache aux effets. On a raison de le faire. Il faut le faire dans une certaine mesure et le faire bien, sans s'attacher aux causes. Et donc, si vous voulez, tout est lié. Quand vous voyez Elon Musk qui lui-même projette des envies sur le futur de l'humain, la question, c'est pas est-ce que l'intelligence va être forte ou en quelle année elle va l'être, etc. La question, c'est on prévoit éventuellement des choses qui vont arriver et d'ici là, on étale une vision du monde. Et cette vision du monde, c'est une vision qui est politique. Quand on fait de l'intelligence artificielle de cette manière-là, au même titre que dans plein de métiers, on va ou renforcer la productivité dans certains métiers, dans une certaine économie qui valorise la productivité, il faut voir que les machines sont efficaces, les machines sont productives. Les humains sont productifs et tout un tas de choses à côté. Les humains sont sensibles, les humains sont émotifs, les humains sont moraux, les humains sont amoraux. Il y a des amitiés, des inimitiés, tout ça, ça ne disparaîtra pas avec les machines. Donc on est dans une forme d'accélération, dans une forme d'efficacité qui est poussée à son extrême et qui, si vous voulez, la technique n'est pas neutre.
Ah non, tout ça ne disparaîtra pas, ça reste à voir, puisqu'on va aborder le dernier volet de cette émission maintenant, qui est l'impact de tous ces bouleversements technologiques sur l'emploi et sur le travail. Et là-dessus, on a quand même des prévisions assez, assez pessimistes. Alors, illustrées par encore un reportage envoyé spécial, me semble-t-il, c'est bien ça sur le restaurant sans serveur.
Je sais pas. C'est une chaîne de restauration américaine qui a effectivement installé une tablette pour prendre la commande à la place d'un serveur et ils en sont très contents. Déjà, regardez.
Au total, la moitié des salariés de la restauration rapide devraient disparaître d'ici 20 ans.
Je ne crois pas qu'on arrivera tout de suite à des fast-foods sans aucun employé, mais à long terme, on y viendra, c'est sûr.
Pour les restaurateurs, l'intérêt est double. Économie de main-d'œuvre d'un côté, augmentation du chiffre d'affaires de l'autre. Dans cette chaîne de restaurants, des écrans tactiles ont été installés à toutes les tables, car les clients consomment davantage quand ils utilisent ces tablettes. Présentation ludique, jeux vidéo payants, l'addition à la fin du repas peut être 20% plus élevée qu'avec un serveur.
L'avantage de ces tablettes, c'est qu'elles n'oublient jamais de proposer quelque chose en plus aux clients. Par exemple, si vous commandez un hamburger, elle va vous proposer une bière qui va avec. Donc c'est bon pour le consommateur et pour nous aussi, car il commande davantage.
Alors, je voudrais un mot sur le « tout ça ne disparaîtra pas ». Vous avez dit « l'humain ne disparaîtra pas ». Vous êtes conscient qu'il y a énormément de prédictions qui vont dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'ils disent que, alors, il disparaîtra peut-être pas, mais il deviendra inutile.
Les prédictions sont faites sur l'emploi, pas tellement le travail, mais plutôt l'emploi. On a des prédictions qui vont, Tiffany en parlera, mais qui vont du simple au quintuple avec, par exemple, l'OCDE qui nous dit qu'à peu près 10% des emplois, estimation basse, vont pouvoir disparaître. En France, ça fait quand même beaucoup.
Estimation très basse.
Et jusqu'à 47% pour alors, Oxford, Roland Berger, le MIT, etc.
Non, mais il y a des estimations beaucoup plus hautes. Le best-seller qui est sorti à la rentrée, là, Homo Deus... rédigé par ce chercheur israélien dont Harari, dont le nom
chercheur est historien. Et donc il n'a aucune compétence technique.
D'accord.
Mais il a été dirigé par Macron.
Voilà.
Alors à préciser que c'est bon, alors, un non, historien mais qui fait un travail de futurologie, donc qui n'est plus dans la science, qui n'est plus dans les archives.
Mais alors lui, ce qu'il nous dit, Harari, c'est pas 40%, c'est 99% des emplois deviendront injustifiés.
Si on regarde les études sérieuses, c'est-à-dire qui ont été faites par des consultants qui ont vraiment fait des vraies recherches sur cette question. Là, le plus haut qu'on ait actuellement, c'est 47%. C'est ce qu'a dit encore le cabinet McKinsey dans sa dernière étude. C'est 47%. Mais
47% d'emplois voués
automatisables. Donc, qui peuvent être automatisables.
Les emplois qui vont être créés. Voilà. C'est-à-dire que les 29 000 porteurs d'eau à Paris de 1793 ont tous été remplacés par l'eau courante, mais il y a beaucoup plus de 29 000 personnes qui travaillent pour la gestion de l'eau potable à Paris. Qu'il y avait de porteurs d'eau.
Il se base, en fait, c'est vrai que les études se basent sur les technologies actuelles. C'est ce qui existe déjà, ce que les technologies sont déjà capables de remplacer. Donc effectivement, les technologies vont continuer d'évoluer. On peut imaginer qu'après, ce chiffre sera beaucoup plus élevé.
Parmi ces études, il y en a quand même qui sont extrêmement fantaisistes. Par exemple, vous avez un papier de l'Université d'Oxford qui a été fait en interrogeant des spécialistes d'intelligence artificielle dans deux grandes conférences d'intelligence artificielle, en leur demandant quand est-ce que vous allez automatiser telle tâche. Alors, un exemple, ils disent d'ici 2024, on n'aura plus besoin de traducteurs. Alors comment ils ont fait? C'est mystérieux parce qu'effectivement, on a fait des progrès en traduction automatique. Mais comment imaginer? Imaginez que dans 7 ans, on aura une machine qui remplacera totalement les traducteurs, qu'on sera capable de traduire du Hölderlin d'une langue dans une autre.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est Harari, dont le livre est sorti à la rentrée et se vend peut-être aussi bien que le vôtre, peut-être même un tout petit peu mieux. Harari, c'est bidon.
Harari fait un travail intéressant, notamment parce qu'il il pointe le risque qu'on ait demain ce qu'il appelle des dieux et des inutiles. Et effectivement, il nous interpelle sur le fait que le système éducatif et de formation ne prépare pas du tout les jeunes enfants à ce monde-là. Vous voyez, là, à la rentrée scolaire le mois dernier, les gamins qui sont rentrés en maternelle seront encore sur le marché du travail en 2070. Il n'y a aucune chance qu'ils soient préparés à l'intelligence artificielle faible qui arrive. Donc effectivement, Homo Deus nous invite à réfléchir à la façon dont nous allons reformer l'éducation pour éviter d'avoir une société à deux vitesses. Mais sur le détail des prévisions de destruction d'emplois, on est dans de la prospective, comme le dit Jean-Gabriel Ganassia, tout à fait fantaisiste. Et en plus, on n'intègre pas les nouveaux métiers. Comme d'habitude, on ne voit pas les nouveaux métiers. Quand les maréchaux ferrants ont disparu, on ne voyait pas qu'il y aurait autant de gens qui seraient dans les autoroutes, la construction de routes, la construction d'automobiles. C'est toujours la même chose. On voit très bien les destructions d'emplois. On ne voit jamais les créations derrière.
En même temps, ce que j'ai retenu de votre livre, Tiffany Blandin, c'est que les nouveaux métiers, je veux dire, en termes d'effectifs, ne compenseront jamais les suppressions de.
On n'en sait rien. Ce qui est assez énervant quand on regarde ces questions-là, c'est que à chaque fois en France, en tout cas, qu'on parle de la destruction d'emplois, l'argument c'est non, mais il va y avoir des nouveaux métiers qui sont créés. On ne sait absolument pas s'il y aura suffisamment de nouveaux emplois qui seront créés pour compenser les emplois supprimés. Pour l'instant, il n'y en a pas. Quand un industriel va nous dire « Oui, mais regardez, on a viré des ouvriers, mais on en a engagé d'autres pour s'occuper des robots. » En général, ils en ont viré 10, ils en ont engagé un. Donc c'est
bien ce que je voulais dire.
C'est de la pure langue de bois.
On n'en sait rien, mais pour l'instant, les indices qu'on a vont plutôt...
Vous avez des indices tout à fait opposés à cela. Parce qu'on voit que les pays dans lesquels
lesquels il y a le plus de robots dans l'industrie ont le moins de chômage.
Par exemple, donc, exemple.
Japon, Allemagne.
Ouais, hein, et donc, je pense qu'il faut quand même apporter des précisions là-dessus.
Qu'il y a une corrélation inverse.
Attends,
C'est pas tout à fait vrai. Entre le modèle allemand, le modèle français, déjà, il y a plusieurs indicateurs à regarder. Si on regarde par exemple la productivité en France, elle n'est pas moins bonne qu'en Allemagne, alors qu'on est deux fois moins automatisé et robotisé. Ça, c'est une première chose. Donc on peut considérer à un moment donné que la technologie...
Il parlait de chômage.
Ensuite, au chômage, on a un taux de pauvreté qui est beaucoup plus important. On a des risques à l'emploi qui sont aussi plus importants pour les jeunes et pour les personnes âgées. On n'est pas exactement sur les mêmes modèles de société. On peut toujours discuter des chiffres qui vont se contredire, Laurent, mais à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Sur l'Allemagne, il y a moins de pauvres qu'en France. C'est un biais statistique.
Attendez, ce n'est pas forcément qu'un biais statistique. Je suis désolé, vous regardez les lois Hartz, ce qu'elles ont fait dans les années 2000 et dans les années 2010, on n'est pas sur le même marché de l'emploi. Non, ce n'est pas qu'un biais statistique, je suis désolé. Pour le coup, la question sous-jacente, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui vont tomber dans une forme de trappe à emploi, c'est-à-dire qu'ils vont être assez rapidement remplacés par des machines et qu'on ne va pas pouvoir former assez vite, en fait, pour des raisons démographiques.
Bien, la question, c'est qu'il faut arriver à avoir une formation tout au long de la vie et passer de la logique française, qui est une formation pour la vie, qui est une formation initiale, à une formation continue. Et ensuite, orienter les gens, les étudiants, vers les disciplines dans lesquelles il y a des perspectives.
Ce que le système éducatif ne fait pas, puisque l'éducation nationale forme pour l'économie de 1995 et en aucun cas pour celle de 2030.
Concrètement, ça veut dire quoi, former les écoliers, les collégiens, les lycéens d'aujourd'hui en fonction de l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire d'un marché de l'emploi de dans 20 ans,
si on est
de dans 20 ans ou de dans 30 ans, qu'on est incapable de prévoir.
Non, mais on sait d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est le présent, c'est pas le futur.
Les collégiens d'aujourd'hui seront sur le marché de l'emploi dans 10 ans.
Je ne parle pas des collégiens, je parle des étudiants, l'entrée à l'université. On parle du système APP qu'on est en train de réformer. Il y a une grande partie des étudiants qui se précipitent pour faire de la psycho, pour faire des STAPS. Or, je crois qu'il y a d'autres types de formations qui donnent des métiers tout à fait intéressants.
On aura besoin de psychologues aussi dans l'IA. Il ne faut pas dénigrer absolument.
Donc, il faut avoir, si on veut des psychologues dans l'IA, il faut que ce soit des psychologues qui aient aussi une formation en intelligence artificielle et dans le numérique.
Il y a quelque chose qu'on n'interroge pas aussi, c'est qu'il y a une forme de déterminisme technologique. Alors, on va vers des choses qui sont de plus en plus automatisées. Il y a aussi des questions démocratiques qu'on ne pose plus tellement, en fait. On est projeté dans un devenir qu'on ne choisit plus tellement. Le peuple, dans tout ça, il subit un petit peu. Et avant de, si je puis me permettre, avant de penser à adapter l'humain à la société de demain qui va être une société machinique, il faudrait peut-être se poser des questions sur quelle société machinique on veut. Est-ce qu'on veut la faire perdurer dans un climat concurrentiel où les Chinois se battent contre les Européens, qui se battent contre les États-Unis, etc. Quelles ampleurs on veut garder? Est-ce que tout le monde a envie demain d'aller commander un hamburger automatisé dans une chaîne de fast-food? Est-ce que c'est bien les chaînes de fast-food?
Alors, question fondamentale à laquelle vous répondez quoi?
Sur les fast-food?
Non, sur quelle société? Non, mais je veux dire.
Alors, on a un gros problème. Comme l'Europe est larguée et n'a pas de plateformiste, en réalité, ce futur, il s'invente en Chine et en Californie. Pour le faire très simple, les GAFA et les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi ne sont pas chez nous. Donc, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Effectivement, il faudrait qu'on essaie de le reconquérir, mais on a fait tellement d'erreurs dans le numérique. On a tué nos géants comme Nokia, et Nokia était le leader mondial du téléphone et il est mort. Donc nous avons fait toutes les conneries technologiques qui font qu'aujourd'hui notre destin est dicté sur les bords du Pacifique et pas à Paris.
Donc on ne fait rien, on s'adapte on essaie.
Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, l'urgence, c'est le système de formation. On ne connaît pas les métiers de 2030, mais on sait à peu près ce que l'intelligence artificielle...
Donc, effectivement, on s'adapte. On s'adapte à un modèle
On sait ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Elle n'a pas d'esprit critique. Elle n'est pas multidisciplinaire. Elle n'est pas transversale. Et donc, il faut former des gamins qui sont capables de résister à l'intelligence artificielle en ayant ces qualités-là. On sait bien que l'intelligence artificielle va faire 1 million de fois mieux les contenter que le meilleur comptable sur Terre.
En revanche, il y a des tas de domaines où l'IA va être mauvaise.
Si je vous
comprends bien, parce qu'on pourrait mal vous comprendre, vive les humanités.
Mais évidemment,
vive les lettres.
Mais c'est l'urgence.
Vive l'histoire.
La philosophie, l'histoire et l'humanité à l'école.
C'est l'hybridation des savoirs.
On pourrait mal vous comprendre.
Traditionnel et des savoirs modèles.
Former des codeurs informatiques.
Attendez, pas tout le monde. Vous terminez ensuite.
De former des comptables, des techniciens étroits, ce que fait l'école aujourd'hui est une connerie. Il faut former des gamins ayant un esprit critique, lisant 3 livres par semaine, multidisciplinaires, connaissant la philosophie. confier à l'histoire. Nous faisons juste le contraire. Face à l'IA, nous envoyons les gamins, nous envoyons les gamins au casse-pipe, nous envoyons les gamins au casse-pipe, et nous formons des techniciens qui vont être laminés.
Heureux. Ce qu'il y a dans le bouquin de Laurent Alexandre. Moi, je partage absolument toutes ces considérations. C'est dommage qu'on attende l'IA pour se réveiller sur l'éducation. Ça fait longtemps que tout le monde en parle, y compris les profs qui sont les premiers concernés. Moi, j'ai commencé à parcourir ce livre. J'avais déjà émis des avis là-dessus. Il est quand même question, à côté de ça, encore une fois, de rattraper ce déterminisme technologique en, par exemple, faisant de la sélection des embryons, en sélectionnant les bébés pour qu'ils
aient... J'ai pas dit que j'étais pour. J'ai dit que la Chine va bientôt le faire. C'est très différent.
Oui, mais alors est-ce que si la Chine le fait, il faut le faire, nous. En gros, 50% des Chinois aujourd'hui, certains Chinois, hein, c'est facile de réduire la Chine à une statistique, hein, mais bon, voilà, sont pour l'augmentation cérébrale de leurs enfants, c'est-à-dire l'augmentation du QI. Ça, c'est la thèse du livre d'Alexandre.
Non, c'est un sondage international.
Oui, mais c'est votre thèse, c'est aussi ce que vous soutenez, et vous posez la question légitime de savoir est-ce qu'on suit ce modèle. Vous penchez plutôt vers oui. Donc, quelque part, vous invitez à augmenter le QI.
Je ne dis pas ça. Je dis que, à titre personnel, mais je n'engage pas la société, c'est mon avis de citoyen, je préfère qu'on aille vers de l'augmentation biologique plutôt que de mettre des microprocesseurs Neuralink dans le cerveau de nos enfants. C'est ça. Mais c'est à titre totalement personnel. Ouais,
c'est-à-dire que vous êtes sur une sorte de test du moindre mal, en fait.
Oui. Exactement. Et je ne pense pas une seconde qu'il n'y a pas des pays qui vont faire de l'augmentation cérébrale. Et je pose la question, que vont devenir nos enfants s'il y a du neuro-enhancement, de l'augmentation cérébrale généralisée sur les bords du Pacifique? Et je suis un peu angoissé et je ne sais pas très bien ce qu'il faut répondre. Je pense qu'il faut un vrai débat politique et de société sur ces sujets-là pour pas qu'on achète en masse des implants Neuralink dans l'éducation nationale de 2042.
Jean-Gabriel Ganassia, sur toutes ces questions.
Alors, première chose, les implants Neuralink, il faut quand même expliquer que c'est une fable totalement illusoire. Il n'y a aucune chance que ça puisse jamais marcher. On ne pourra pas augmenter le cerveau avec des disques durs. Ça, c'est le premier aspect.
On a traité beaucoup de sujets dans cette émission.
Ce n'est pas du transhumanisme. Là, je parle de l'intelligence artificielle. Deuxième chose. Je crois que ce qui est important, c'est de dire qu'effectivement, il n'y a pas de déterminisme technologique. Hein, les avancées, ça ne nous tombe pas sur la tête comme le ciel tombait sur la tête des Gaulois. Nous sommes Gaulois, et c'est dommage. Je crois qu'il faut au contraire regarder le futur et se demander quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à nous.
Non, mais attendez, ça nous tombe sur la tête tous les jours.
Non, ça ne nous tombe pas sur la tête. Il y a énormément de start-up en France. Il y a énormément de gens qui ont des idées nouvelles et je pense qu'il faudrait les aider à réaliser leurs projets et ensuite une fois que
c'est start-up... des choses qui nous tombent sur la tête.
Non, elles ne nous tombent pas sur la tête. Je crois que ça n'a absolument aucun rapport. Au contraire, c'est un futur désirable, je crois, qui est présent. Alors, dernière chose sur la formation, effectivement, ce sont des hybridations entre des formations différentes qui sont importantes, les hybridations entre les formations classiques et les formations modernes. Hein. Nous avons par exemple, nous, lancé des bilicences lettres informatiques pour essayer de former à de nouveaux métiers. Par exemple, on parlait du journalisme tout à l'heure et je crois qu'il est important de savoir que le journalisme se transforme. Ça ne veut pas dire que le journalisme soit supprimé. C'est complètement illusoire. Peut-être qu'on arrivera à rédiger certaines brèves automatiquement. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que le nouveau métier de journaliste, c'est justement d'être capable d'aller sur le web, de prendre l'information et puis ensuite de confronter les informations avec des outils d'intelligence artificielle. Et ça, effectivement, ce sont des transformations majeures qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, qui ne sont pas obligatoirement négatives.
Ce qu'on appelle le data journalisme. Je crois que vous devez nous quitter bientôt. Juste une question avant de vous laisser partir, parce que bon, vous intervenez très souvent dans le champ public sur ces questions. C'est vrai que votre biographie est un peu étrange. À la base, vous êtes urologue.
Oui, je suis chirurgien. Oui.
Vous êtes chirurgien urologue. Qui avait fondé Doctissimo, qui avait revendu Doctissimo, ce qui vous a placé à l'abri du besoin pour un certain temps, j'imagine.
Pour quelques générations.
Pour quelques générations. Et aujourd'hui, pour qu'on sache, dans quel domaine avez-vous investi
J'investis dans l'ensemble des technologies NBIC, l'informatique.
Des technologies ?
Des nanobiotechnologies, donc dans la thérapie génique, dans l'analyse ADN, dans les neurotechnologies aussi. Donc j'interviens dans tout le champ des NBIC, mais ça ne m'empêche pas
de prendre des positions contraires à certaines de ces innovations-là. Et il y a une séparation totale entre mon activité d'entrepreneur et mon activité d'intellectuel et d'auteur d'essais.
Mais dans quel domaine, par exemple, l'intellectuel est-il un peu effrayé par l'entrepreneur ou est-ce que l'entrepreneur pourrait entreprendre ?
Je ne suis pas effrayé par l'entrepreneur, mais je suis effrayé par l'absence de préparation de la société à ces technologies-là. Et quand je vois, il y a quelques jours, dans le Guardian, le patron de Google qui explique « Je ne suis pas sûr que l'humanité veuille, souhaite un changement aussi rapide que celui qui a lieu en ce moment. » Je me dis que cette discussion-là, elle commence à prendre forme, même chez les GAFA. Le débat politique sur jusqu'où doit aller la technologie et est-ce qu'on peut ou pas bloquer le déterminisme technologique me paraît essentiel.
Choisir.
Aujourd'hui, on
peut inventer des technologies qui soient plus démocratiques. Il faut savoir qu'en technologie, il y a des paradigmes qui existent avec la formation du web, etc. Les infrastructures techniques conditionnent énormément les façons de vivre des humains. Quand on a une infrastructure qui est centralisée, on va vers un pouvoir qui est centralisé. Aujourd'hui, sur Internet, il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus contributifs, qu'on peut encore inventer démocratiquement et qui permettent d'en profiter un petit peu tous. Et là, je pense qu'on tombe d'accord aussi. Il ne faut pas laisser ces gens-là décider pour nous de ce qu'il faut faire en termes techniques.
Il a déjà à moitié enlevé son micro, hein, mais il l'a repris. Oui. Oui, alors un dernier mot, parce qu'on va...
Il faut que le politique, il faut que la société s'empare de ces sujets-là. On ne peut pas laisser, d'un côté, les conservateurs de l'éducation massacrer le futur de nos enfants en ne comprenant pas le futur. On ne peut pas non plus laisser les géants du numérique décider de notre avenir. Il faut que le politique décide, il faut que le politique tranche, et pour que le politique tranche, il faut que le politique comprenne mieux ses enjeux. Or, pour l'instant, notamment au Parlement, il y a très très peu de gens qui connaissent ces enjeux-là.
Bon, en tout cas, on va faire tout ce qu'on peut pour y contribuer. Émission tout à fait passionnante, sujet sur lesquels on reviendra. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.